Réplique, est-ce ainsi que les hommes meurent, avec Jacques Ricot et Gabriel Ringlet. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter, du moins dans les pays occidentaux. Ceux qui naissent aujourd'hui ont de très bonnes chances de mourir centenaires. Mais les mots d'espérance et de chance sont-ils vraiment les bons? Dans un corps devenu appareil, tout est réparable et même remplaçable, sauf le cerveau. La promesse de longévité contient aussi, pour tout un chacun, la menace d'une interminable décrépitude et aussi du fait de l'aptitude croissante de la médecine à prolonger la vie sans guérir, de souffrances morales et physiques sans fin. Le grand rêve de longévité tourne parfois au cauchemar, d'où le caractère lancinant du débat sur l'euthanasie. J'y reviens une fois encore dans cette émission et à mes deux invités, Gabriel Ringlet qui est prêtre et Jacques Ricot qui est philosophe, je voudrais demander d'entrée de jeu de commenter ces propos tenus par Georges Steiner à Laure Adler sur France Culture. Il est inconcevable que l'on puisse garder en vie malgré eux ceux qui n'ont plus pour seul espoir que de quitter cette vie. Cela me semble d'un sadisme affreux. Comment réagissez-vous à ce cri d'angoisse et de colère, Gabriel Ringlet?
Mais je suis tout à fait d'accord, et le « malgré eux » est absolument déterminant. Et d'ailleurs, on y viendra, mais une des causes principales du développement de l'euthanasie, ce que j'appelle parfois l'euthanasie du désespoir, l'euthanasie qui est un cri de détresse, c'est précisément parce qu'il y a acharnement, thérapeutique tout à fait déraisonnable. Et je pense que pour poser la fin de vie de manière beaucoup, beaucoup plus sereine, il faut entendre ce cri jusqu'au bout. C'est déterminant.
Mais alors, vous l'entendez, mais en l'entendant, Gabriel Ringlet, vous mettez, si j'ose dire, en opposition, ou du moins en délicatesse, avec la doctrine officielle de l'Église, puisque celle-ci refuse absolument toute forme d'euthanasie ou de suicide assisté.
Vous avez tout à fait raison, mais de là à dire que c'est une opposition radicale, disons que c'est en tout cas un débat qui, pour le moment, dans mon pays en particulier, est tout à fait ouvert. J'ai la chance de dialoguer publiquement avec des évêques à qui je pose une question toute simple. Dites-moi ce que vous faites devant cette souffrance insupportable. Il y a d'un côté l'euthanasie. Les évêques me répondent, oui, mais il y a la sédation. Pour moi, la sédation est un acte aussi grave, éthiquement aussi grave, si pas plus grave que l'euthanasie, alors qu'on ait au moins le courage de dire, nous nous trouvons devant deux décisions éthiques extrêmement graves, et je pense que celle de l'euthanasie est à tout prendre moins grave que celle de la sédation.
Et quelle est la doctrine officielle de l'Église, Gabriel Ringlet? Pourquoi celle-ci refuse-t-elle toute forme d'euthanasie? Parce que la vie est sacrée.
Parce que la vie est sacrée, mais vous savez, dans la loi qui dépénalise l'euthanasie en Belgique, on dit aussi que la vie est intouchable, on dit aussi que mettre fin à la vie, c'est un crime. Mais la vraie question éthique est de savoir s'il y a des conditions éthiques de la transgression. Je pense que oui, que en conscience, il y a des conditions éthiques de transgresser.
Jacques Ricot.
Merci Alain Finkielkraut d'abord d'organiser cette discussion, cette rencontre. Merci aussi d'avoir choisi ce titre. Parce que c'est le titre que Jean-Louis Nitti lui-même a décidé pour son livre « C'est ainsi que les hommes meurent ». Et donc, je voudrais aussi, au moment où je vais commencer à m'exprimer, dédier cette émission à quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui est mon propre père, nonagénaire, et qui est en souffrance, qui est en difficulté. Je sais qu'il m'écoute et je sais que aucun mot blessant de ma bouche, et je l'espère aussi de la vôtre, des uns et des autres, ne sortira pour lui dire que sa condition actuelle est déplorable et qu'il ferait mieux de s'en aller. Parce que c'est ça le risque du débat collatéral, des dommages collatéraux ici. Alors j'en viens évidemment à ma réaction, à moi aussi, à celle de Georges Sanner. Il faut bien entendu accepter d'entendre ce cri, cette colère, cette détresse. Mais est-ce que nous pourrions ici commencer à clarifier un peu les choses en faisant observer, ce qu'a très bien dit Gabriel Ringlet à l'instant, que le refus exprimé véhémentement par Georges Steiner est d'abord le refus d'une prison dorée, que serait un hôpital, le refus d'une obstination déraisonnable, le refus d'un acharnement thérapeutique. Moi qui suis au contact régulier, comme Gabriel, des équipes soignantes, de façon hebdomadaire, je peux témoigner que le mieux qui serait à proposer à Georges Steiner serait tout simplement qu'il aille faire tout simplement un séjour dans une unité de soins palliatifs. Et il y verrait une grande humanité. Il y verrait le contraire de ce qu'il redoute en ce moment, c'est-à-dire cette prison dans laquelle il se trouverait soi-disant enfermé.
C'est tout à fait vrai, si je peux me permettre. Je travaille en soins palliatifs en permanence et j'admire les soins palliatifs. Et je pense que les soins palliatifs doivent tout faire pour trouver d'autres chemins, et y compris, je suis le tout premier à le souligner, le respect de la vie la plus fragile et même la plus dégradée. Mais il arrive, en soins palliatifs, qu'on soit devant un mur, qu'on soit devant un obstacle, et à ce moment-là, j'aime que ce soit à l'intérieur même d'une unité palliative que l'on ose poser cette question extrêmement difficile et délicate, et que l'on ne sépare pas les deux. Il y a un continuum, en fait. Et je crois que la décision très grave d'euthanasie, elle peut s'inscrire, ça paraît paradoxal pour certains, au cœur des soins palliatifs, et c'est même une garantie que cette pratique sera faite avec un très très grand respect du patient.
Alors c'est là que nous allons avoir un débat et probablement une différence. En ce qui me concerne, je n'accepte pas de dire que l'euthanasie est une pratique de soins. Et d'ailleurs, nous allons en parler forcément dans cette émission, la personne, le médecin Corinne Van Oost, qui vous a appelé, comme vous le dites si bien dans ce livre que vous avez écrit, beau livre au demeurant, comme ceux qui ont précédé celui-là et que je lis toujours avec bonheur. Vous avez beaucoup de sens poétique, en particulier Gabriel Ringlet. Eh bien, comme dit Corinne Van Oost, la pratique de l'euthanasie n'est pas un soin. Ça n'est pas un soin. C'est le contraire du soin, c'est l'arrêt du soin. On ne prend plus en considération la personne. Elle le dit en toutes lettres.
Je travaille avec elle tous les jours et nous savons très très bien que quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore énormément à faire. Oui. Et c'est une vraie médecine, la médecine palliative. Bien et je sûr. Voudrais même qu'elle ait une influence sur l'ensemble de la médecine tout court.
Non, c'est l'euthanasie qui n'est pas un soin. Bien sûr que les soins palliatifs, comme le dit si bien le nom, sont des soins. Personne ne le discute. La question qui va peut-être nous différencier ici, c'est celle de savoir si l'euthanasie est un soin ou l'arrêt des soins. Pour moi, c'est l'arrêt des soins. Et c'est pourquoi il n'y a pas de continuum entre soins palliatifs et euthanasie.
Oui, mais Jacques Hicot, c'est peut-être l'arrêt des soins, mais ça peut être une forme de sollicitude.
Oui.
Parce que certains peuvent penser que l'euthanasie serait un bon moyen pour une société de se débarrasser d'un certain nombre de vieillards lourdement handicapés et qui coûtent très cher. C'est ce qu'a l'air de dire d'ailleurs Robert Redeker dans son livre « Bienheureuse vieillesse ». Il pense que la volonté d'étendre le champ d'application de l'euthanasie relève de la gérontophobie de nos sociétés axées sur le culte de la jeunesse et de la performance. Sauf que, et c'est tout le sens de la colère et l'angoisse de Georges Steiner, l'euthanasie est demandée par un certain nombre de patients eux-mêmes qui, lorsqu'on leur annonce, par exemple, qu'ils ont une démence sénile, la maladie d'Alzheimer ou une autre, et que, effectivement, le déclin est inexorable, disent « il s'agit pour moi d'en finir, je ne veux pas continuer jusqu'au bout du bout de la déchéance ». Et est-ce que à ce moment-là, quand la médecine sait qu'elle ne peut plus guérir, qu'elle ne peut plus rien faire, est-ce qu'elle ne doit pas entendre cette demande et faire preuve, justement, de sollicitude et jusqu'à l'euthanasie, quand, encore une fois, c'est le patient qui la demande.
Alors moi, je laisserai volontiers la parole à Gabriel Ringlet là-dessus, parce que je crois que nous sommes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire le fait que, contrairement à ce que vous dites, toute déchéance n'est pas forcément inhumaine, et que donc, ça n'est pas forcément la suppression de la vie qui est ici la bonne solution. Mais je sais qu'il est, comme moi, hanté par cette question de la fragilité à préserver.
Je vais dire deux choses. D'abord, celle-là. Je rejoins ce que dit Jacques, vraiment. Moi, j'ai le plus grand respect pour la vie la plus ténue, la plus fragile. Et tant mieux si quelqu'un de très bien entouré, qui a une affection forte à côté de lui, peut traverser cette fragilité-là, tant mieux. Mais je rejoins vraiment votre question fondamentale et je la rejoins à travers un témoignage que je raconte dans mon livre et qui est celui d'une petite sœur carmélite. Mais vous imaginez, 83 ans, 60 ans de vie contemplative et qui dit « je veux que ça s'arrête, je veux en finir, je suis confronté à un drame existentiel, à un drame spirituel fondamental, je prie tous les matins, du matin au soir, je récite l'office et je veux que ça s'arrête. » Eh bien, cette petite sœur, il fallait l'écouter jusqu'au bout. Et je suis heureux que son médecin traitant m'ait appelé, que nous ayons pu dialoguer avec elle. C'est cela aussi la réalité devant laquelle nous nous trouvons. Donc ce cri, il peut surgir, y compris dans le tragique du sommet de la vie spirituelle.
Bien entendu, et moi-même qui rencontrais récemment une soixantaine de religieuses cloîtrées, figurez-vous qu'on m'avait demandé une formation à ces personnes-là. J'ai bien vu qu'elles étaient comme tout le monde, bien entendu, et l'angoisse de la mort habite chacun d'entre nous, et surtout l'angoisse de la manière dont on va mourir.
Oui. Bien sûr, l'angoisse amène notre vie.
Et c'est là qu'il faut répondre, et très clairement, à l'interpellation de George Steiner, que vous relayez, Alain Finkielkraut, vous qui êtes aussi angoissé visiblement quand on vous entend parler de ces questions. C'est là qu'il faut évidemment entendre jusqu'à la sollicitude, bien entendu, entendre jusqu'à donner la mort, c'est-à-dire tuer. Alors là, nous soulevons d'autres problèmes qui ne sont plus seulement ceux de la liberté individuelle, mais qui sont, et on va y revenir j'espère, ceux du corps social tout entier.
Oui, mais alors, il est vrai que je suis hanté par cette question. Comme tout le monde, je vis.
Un peu plus que tout le monde.
Comme tout le monde, je vis. Et puis, j'ai vu décliner et mourir mes deux parents. Un peu de la même manière, à plusieurs années de distance, mais chacun au même âge, qui était un très grand âge. Or, ma mère n'avait qu'une idée, justement, lorsqu'elle approchait le grand âge, mais qu'elle était en pleine possession de ce moyen. Qu'on ne la laisse pas dépérir si elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne sais pas si ce nom convient à sa démence sénile. Il reste que nous ne lui avons pas obéi. Elle est allée jusqu'au bout du bout de la déchéance. Et j'ai été très affecté parce que c'est extraordinairement douloureux d'avoir à faire son deuil de quelqu'un de son vivant. Or, c'est effectivement ce qui arrive dans ces longues agonies, dans ces agonies interminables. Et c'est douloureux pour moi de me rendre compte que je n'ai pas tenu ma promesse. Et j'ajoute que lorsque des personnes veulent tenir cette promesse aujourd'hui, ils se heurtent de la part des médecins à un refus que je ne qualifierais pas de sadique, mais qui a quelque chose d'obtus. J'avais invité, et c'est une émission que vous aviez suivie, je crois, Jacques Ricot, Emmanuel Bernheim, qui a écrit « Tout s'est bien passé » à propos de la fin de vie de son père. Celui-ci se réveille avec une hémiplégie très sévère après un accident vasculaire cérébral. Il a 89 ans, il a décidé d'en finir, il veut que ses filles l'aident. Emmanuel Bernheim se rend chez une femme médecin qui s'occupe de lui. Elle lui dit « Mon père m'a dit qu'il souhaitait en finir ». À ce moment-là, réponse, il lui a dit aussi, ainsi qu'à l'équipe soignante, « Ça ne l'inquiète pas vraiment, elle a l'habitude de ce genre de réaction. Elle a décidé d'augmenter les antidépresseurs, en plus de l'atimil, du rivotril au coucher. Elle se cale dans son fauteuil. Espérons que les antidépresseurs feront vite leur effet. » Et finalement, elle lui dit « Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. En général, ils finissent tous par s'accrocher à la vie. » Et j'ai trouvé cette phrase absolument terrible. Si c'est le seul horizon que la médecine propose, alors elle n'est pas dans le rôle qu'elle devrait tenir.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'abord très très touché par ce que vous venez de dire de la mort de vos parents. Mais cela, je le vis, j'en suis témoin. Et c'est bien pourquoi je mène aussi ce combat. Et pour que ce combat soit mené de manière digne pour tout le monde, L'euthanasie, c'est quelque chose qui se fait en relation. Ce n'est pas quelque chose qui est isolé. Il y a un patient qui fait une demande dans des circonstances extrêmement précises. Il y a une équipe soignante qui doit y accéder. Et là où je travaille, tous les membres de l'équipe soignante sont dans le coup, depuis les bénévoles jusqu'aux médecins, jusqu'aux infirmières. Et nous avons vraiment un débat de fond. Et puis, il y a les proches. Et nous tentons qu'il y ait une décision qui se prenne en respectant chacun. Je ne peux pas imaginer qu'une fin de vie ne soit pas accompagnée en reliance. Et c'est quand la médecine décide que cette médication pourra faire son œuvre que c'est insupportable. J'ai pour l'instant une de mes belles-sœurs qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle vient de faire une fracture du pied. Elle était très lucide, encore très présente. Une maladie d'Alzheimer chez elle dans la douceur. On la transporte dans un institut de gériatrie, on la bourre de médicaments, et en 3 jours, ce n'était plus la même femme. Cette médecine-là est insupportable.
Alors il faudrait, pour traiter convenablement de cette question, Anna Finkielkraut, que vous invitiez des médecins. Parce que il faudrait rentrer évidemment dans des détails dans lesquels nous-mêmes, moi je suis philosophe, Gabriel Ringlet est prêtre, nous ne rentrons pas, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 25 ans et de façon hebdomadaire, je travaille avec les unités de soins palliatifs et avec le corps médical. Et donc, je m'aperçois que les questions que nous nous posons, nous autres bien portants, eh bien, ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes que celles des mal portants. Quand ils arrivent dans ce que vous avez cru devoir qualifier l'état de déchéance, mot que j'évite pour ce qui me concerne, parce que j'ai dit tout à l'heure en commençant que je ne voudrais pas qu'il y ait des mots qui blessent ici.
Or, je sais trop bien
ce que ça signifie quand on lance à la télévision ou à la radio des mots du genre « mais cette vie ne vaut plus d'être vécue, mais cette vie est indigne, mais je n'en voudrais pas pour moi ». Bien, qui voudrait être un jour atteint de la maladie d'Alzheimer ? Enfin, heureusement que personne ne le veut. Et pourtant, les personnes qui en sont atteintes peuvent encore avoir une vie et ont encore une vie. Et si elles veulent se suicider, c'est une liberté au sens...
Mais un peu plus, c'est très difficile de se suicider.
Non.
C'est extraordinairement difficile.
Non. Je vous dirai en off comment on peut faire, et c'est très facile et c'est pas coûteux du tout. Mais justement, je ne suis pas pour, parce que ma position personnelle est de ne jamais encourager le suicide. Il me semble que éthiquement, c'est tout de même la moindre des choses que nous devons aux autres humains, et c'est ça la sollicitude.
Mais Jacques, les deux ne sont pas incompatibles. Donc d'une part, qu'il faille un discours de société, je suis le tout premier à le dire, qui soit très attentif à la fragilité, qui ne fasse pas constamment du jeunisme, qui dise qu'une personne très âgée a encore plein de sens pour moi et qu'on le lui dise. Nous sommes bien d'accord. Ce discours-là doit être un discours dominant et il n'est pas toujours prononcé. Mais au même moment, des personnes qui sont dans un état épouvantable, nous ne les écoutons pas. Et moi, je peux vous raconter des tas d'histoires de refus d'euthanasie qui se traduisent par un suicide.
Oui,
je
n'ai.
Moi, je connais pour l'instant 2 médecins de ma région qui sont en pleine dépression parce qu'ils ont refusé l'euthanasie à leurs patients qui est allé se suicider.
Oui, c'est insupportable. Mais parce que c'est le tragique de la condition humaine. Et moi aussi, j'ai des cas de ce genre à vous citer. Des centaines, non pas des centaines, mais quelques dizaines quand même en 25 ans. Mais ce qui est redoutable ici, c'est de considérer que le dégât collatéral de la position du Benelux, le seul pays au monde, 0,35% de la population mondiale, où les médecins ont le droit de tuer leurs patients.
On pourrait peut-être parler de cela avec beaucoup plus de nuance, Jacques.
Mais c'est la vérité historique. Il n'y a aucun autre État au monde que le Benelux où les médecins peuvent tuer leurs patients. Le mot de tuer est utilisé
par
Corinne Van Oost.
Mais la sédation de la loi Lionetti va tuer le patient de manière moins claire.
C'est hypocrite, mais c'est la même chose.
Moins clair que l'euthanasie.
On va en reparler. Pour l'instant, je me borne à dire qu'une société qui autorise, qui légalise, bien sûr selon certains critères, mais qui sont appelés naturellement à s'étendre indéfiniment, comme on le voit.
Mais non.
Comme on le voit dans votre pays, l'euthanasie est autorisée pour les mineurs, c'est absolument impossible il y a 10 ans. L'euthanasie est maintenant autorisée aussi pour des personnes qui, psychiatriquement...
C'est tout à fait faux. Il y a une part de légende incontestable à ce propos-là, mais je vous le montrerai.
Je vous le montrerai.
Je suis de tout près le dossier d'euthanasie pour les personnes de maladie mentale.
C'est très violent ce que vous dites. C'est-à-dire, tout d'un coup, ce sont des médecins qui dérogent non seulement
au
serment d'Hippocrate, mais au 6e commandement. Tu ne tueras point. Mais vous dites, il faut entendre des médecins, mais je vous ai fait entendre la parole d'une femme médecin. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. En général, ils finissent tous par s'accrocher à la vie. Alors, est-ce qu'il faut avoir perdu tout sens de l'humain pour n'être pas horrifié par ces paroles de réconfort? Donc un médecin qui aide un patient comme le père d'Emmanuel Bernheim me paraît beaucoup plus moral, dans la mesure où l'éthique, ce n'est pas autre chose que le souci d'autrui, qu'un médecin qui se drape dans le serment d'Hippocrate et dans les dix commandements pour accepter cette idée que, voilà, avec des antidépresseurs, avec la pharmacopée, eh bien, tout d'un coup, l'homme s'accroche à la vie et il faut s'en féliciter. C'est atroce. On ne peut pas accepter pour nous-mêmes cette perspective, parce que nous ne sommes plus seulement des êtres pour la mort, comme le voulait Heidegger, grâce ou à cause des progrès de la médecine, nous sommes aussi des êtres pour la démence sénile et nous avons le droit de nous prémunir contre l'avenir qui nous est ainsi préparé.
Alors, vous me dites, si je vous entends bien, que je suis du côté des principes, le sixième commandement, le serment d'Hippocrate,
vous dites que vous
êtes du côté de la compassion et de la sollicitude, c'est bien ça?
Je pense qu'il y a une part de sollicitude chez les médecins qui ne réagissent pas comme cette femme.
Alors, je ne dis pas que ce médecin a raison d'utiliser les mots et les traitements et les médications qui ont été utilisés. Le problème numéro un que nous rencontrons avec les personnes en fin de vie n'est pas celui de l'euthanasie, ça c'est médiatique, mais dans la réalité quotidienne, ce n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est celui encore trop important dans notre pays de l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle obstination déraisonnable. Les soins palliatifs sont justement là pour faire comprendre à la médecine qu'elle n'est pas là pour prolonger la vie, pour faire que l'on s'accroche. Ça fait trois fois que vous utilisez le mot « s'accrocher ». Dans des émissions précédentes, vous l'avez également... Visiblement, ce mot vous obsède. Mais ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes qui disent « je veux en finir », en effet, s'accrochent à la vie. Parce que la vie, eh bien, même quand elle est extraordinairement diminuée, et je pense à mes amis tétraplégiques, et je pense à mes amis Alzheimer, j'en ai, eh bien, oui, ils s'accrochent à la vie. Parce qu'il y a des petits battements de cils, il y a des petites choses qu'il faut savoir, écouter et entendre.
Moi, je voudrais parler des médecins.
Gabriel Ringlet.
Médecins dont on dit qu'ils commettent là un acte criminel. Eh bien, pour les accompagner de très très près, et j'ai la grande chance d'accompagner des médecins et dans les hôpitaux laïcs et dans les hôpitaux catholiques, et d'être appelé des deux côtés, je vois que aucun médecin n'a jamais pratiqué une euthanasie de manière heureuse. Il est bouleversé par l'acte qu'il pose. Je viens encore d'avoir un débat à la télévision belge avec des médecins qui nous disaient « Est-ce que vous mesurez le drame que cela représente pour nous, la manière dont nous devons être accompagnés nous-mêmes ?» Et donc, il y a une énorme réflexion de la plupart des médecins qui sont confrontés à cet acte très, très, très exigeant. On ne le dit pas assez. Il faut aussi accompagner les médecins.
Mais vous dites que l'euthanasie est une transgression et en même temps, vous semblez, Gabriel Ringlet, défendre la législation de votre pays.
Absolument. Et je suis heureux que la législation de mon pays dise juridiquement,
la Belgique dise juridiquement
que c'est un crime. Mais y a-t-il, face à ce crime, des circonstances où, en conscience, on peut estimer qu'entre deux mots, nous allons choisir le moindre? C'est cela l'enjeu, c'est quand même un véritable enjeu. Et j'ose dire que oui, il y a transgression, mais y a-t-il des conditions où la transgression est morale? C'est quand même une question fondamentale.
C'est une vraie question et je suis prêt à l'aborder. Mais il y a beaucoup de questions qui sont venues en même temps et si bien que le fil de notre échange risque d'en être un petit peu perturbé.
Je ne crois pas. Je crois qu'au
Puisque ça fait à deux reprises que l'on nous dit que la sédation est une mauvaise solution, une mauvaise alternative.
La sédation, c'est ce qui est proposé par la nouvelle loi,
Kless. Deuxième lecture le 6 octobre.
Oui, c'est ça, qui vise à instaurer un droit à pouvoir dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Et c'est encore en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
C'est bien la sédation profonde et continue qu'il ne faut pas confondre avec tous les autres types de sédation. Autrement dit, on endort définitivement et le patient ne reviendra jamais à la conscience. Donc, on construit sa mort. Ce n'est pas une mort naturelle, la mort sous sédation. C'est une mort aussi artificielle que la mort sous euthanasie. L'une est plus rapide, l'autre est plus lente, Mais le paradoxe, c'est que la mort plus rapide, euthanasie, est beaucoup mieux accompagnée, y compris spirituellement, que la mort sous sédation.
Alors, désaccord complet
Jacques
sur l'analyse que vient de faire Gabriel Ringlet de la sédation dans le dispositif législatif français.
On lira le texte. Hein.
J'ai le texte, j'ai rencontré Jean Leonetti, Alain Claisse à plusieurs reprises ces derniers jours. Je peux vous garantir que là, il y a un contresens total. La sédation en phase terminale, donc la sédation profonde et continue jusqu'au décès, est d'usage, non pas courant, mais d'usage relativement fréquent, en tout cas possible, dans les recommandations de bonne pratique des soins palliatifs, et cela depuis longtemps. Et c'est parce que précisément cette sédation en phase terminale qui permet de mourir sans souffrir naturellement et non
ça,
pas artificiellement.
Ça, vous me le prouverez naturellement.
Je vous le prouverai volontiers.
Vous me le prouverez volontiers parce que ça n'est pas du tout prouvé.
Il se trouve que je travaille de façon très rapprochée avec la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, qu'il y a des groupes de travail en ce moment qui se penchent là-dessus, que moi-même je fais des interventions, mais évidemment c'est pas dans le cadre d'un petit échange comme celui-là que je l'ai fait. Il me faut au moins une heure pour développer ce qu'est la sédation. Eh bien, la sédation qui n'est absolument pas l'euthanasie, la sédation c'est simplement lorsqu'une personne en fin de vie subit des souffrances réfractaires et que son pronostic vital est engagé à court terme, alors on l'endort. Et c'est cela que Alain Claisse, PS et Jean Leonetti, Les Républicains, le débat est transpartisan, essaient de dire, il faut que ce qui est une obligation pour les médecins devienne une généralité et un droit pour les patients. La sédation, au sens où je l'entends, n'a jamais fait mourir.
Mais
c'est même le contraire.
C'est bien cela qui est dramatique, c'est que ça va devenir un droit automatique, ça va devenir une prescription.
Ça, je ne veux pas.
Et avec une parole qui n'est pas prononcée, c'est-à-dire l'acte n'est pas honoré. Écoutez, j'ai texte sous les yeux. Une sédation profonde et continue, SPC, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien de vie.
Ce qui permet de ne pas souffrir, c'est d'endormir le patient. Mais ça ne le fait pas mourir. Évidemment, si vous surdosez...
Mais c'est de l'hypocrisie.
Je l'endors définitivement. Oui, mais
je l'endors définitivement, mais je n'ai pas l'intention de le faire mourir, même si je sais que le produit va le faire mourir.
Non, pas du tout.
Mais
vous trompez, le produit ne le fait pas mourir, c'est sa maladie qui le fait mourir, et il va mourir dans son sommeil.
C'est le rêve, ça.
C'est sa maladie qui le fait mourir. C'est la pratique que je vois régulièrement.
Je vais poser la question d'une autre manière. Pourquoi est-il si grave de faire mourir, précisément, un patient qui le souhaite et pour lequel la médecine ne peut rien. Alors, j'irai quand même dans votre sens, Jacques Ricot, parce que dans le dernier livre de Noël Châtelet, suite à la dernière leçon, celle-ci cite sa mère, qui a décidé sa propre mort, alors qu'elle était très âgée, et elle a dit, le combat de notre génération, c'était celui de l'IVG, interruption volontaire de grossesse, le tien, le vôtre, sera celui de l'IVV, interruption volontaire de vie. Cette formulation me met très mal à l'aise, et même elle me scandalise. Ce n'est pas du tout comme cela que je voudrais formuler les choses, mais il me semble que, si vous voulez, l'euthanasie permet de ne pas laisser à la technique le dernier mot de la mort. Si les médecins se mettent au service, dans certaines conditions, de la volonté du patient, eh bien, il peut faire ses adieux. Et c'est très exactement ce que raconte Denis Arcand dans son film Les Invasions Barbares. Un homme est atteint d'un cancer généralisé, il n'a plus aucun espoir. Une ancienne junkie infirmière a de quoi préparer pour lui un cocktail létal. Elle le fait, il meurt chez lui, entouré des siens. Il dit adieu, c'est-à-dire qu'on retrouve face à la technicisation de la mort la possibilité de la liturgie et du rite. Et pourquoi la médecine ne se met-elle pas au service de cette possibilité? Cela précisément, j'ai beaucoup de mal à le comprendre.
Vous touchez vraiment une question tout à fait fondamentale. Moi, je pense que le rite, et je sais que ça scandalise un certain nombre de gens, devrait être au cœur de la démarche dont nous parlons ici, de la démarche d'euthanasie. Et c'est tellement vrai que ce sont des médecins qui m'ont appelé. la dame que vous avez citée, hein, Madame Van Oost, mais d'autres médecins aussi pour dire « De grâce, ne faisons pas de cet acte un acte uniquement technologique. Faisons cet acte dans un contexte où et les médecins et la famille et tous ceux qui ont accompagné vivent quelque chose qui habite cet acte. » Quoi qu'on en pense sur le plan éthique, il est indispensable que la liturgie, et c'est vrai aussi bien dans le monde laïque que dans le monde catholique, hein, toute liturgie soit au rendez-vous de la fin de vie. Et là, je dois dire que j'ai la chance de vivre dans l'hôpital où je travaille, une expérience formidable où nous préparons, y compris rituellement, un acte aussi douloureux.
Jacques Ricot.
Alors, sur cette liturgie, sur cette célébration, comme vous dites, évidemment, je suis perplexe. Je parle ici en philosophe laïque, et je considère que lorsque une transgression de ce genre va être faite, oui, il est naturel, il est légitime, il est éthique de porter une parole, et le plus longtemps possible. Que ce soit une célébration, là, je pense qu'on est en train de basculer dans l'approbation de ce qui est tout de même un acte dont vous disiez vous-même tout à l'heure que les médecins ne s'en relèvent pas aussi aisément. Ça n'est pas rien de tuer quelqu'un. C'est tout à fait autre chose de l'accompagner jusqu'au bout. Et je voudrais vraiment être d'accord ici et exprimer cet accord avec Anna Finkielkraut qui disait tout à l'heure que oui, la mort est trop médicalisée. C'est justement la gloire des soins palliatifs de l'avoir démédicalisée. D'abord, assumer le fait que, à certains moments, on ne peut plus guérir et que donc il faut accompagner du mieux que l'on peut les personnes qui ne représentent plus le modèle standardisé de la jeunesse, de la performance. Et je suis heureux, Anna Finkielkraut, que vous ayez été choqué, comme moi aussi je l'ai été, par cette expression « interruption volontaire de vieillesse ». Comme s'il y avait une symétrie entre la détresse d'une mère qui ne peut plus donner l'hospitalité à son enfant et le fait qu'une société, sans se rendre compte d'ailleurs du discours qu'elle profère officiellement, dise « Mais vous les faibles, vous les fragiles, vous les vieux, si vous voulez, nous avons une solution ». Mais c'est ça qui est en train de se dire finalement derrière ces cas évidemment toujours extrêmes que nous portons au nu.
Mais je pense ici à Rainer Maria Rilke,
moi aussi,
qui a
beaucoup.
Une phrase extraordinaire quand il dit qu'il faut avec de l'ici faire de l'au-delà. Oui. Est-ce qu'avec l'ici de l'euthanasie, nous pouvons faire de l'au-delà ? Ce dont nous avons besoin au moment où l'acte est posé, ce n'est pas simplement d'une conversation, ce n'est pas simplement d'un bavardage. Oui. Il faut pouvoir avoir une lumière, il faut pouvoir avoir un parfum, un poème. Il faut que quelque chose se célèbre qui fait que ce qui est si lourd à porter, nous puissions le porter plus loin. Oui. C'est simplement de l'humanisme.
Non, mais
cela.
Célébrer ne me va pas. Je préférerais dire qu'il y a une parole d'accompagnement.
On ne célèbre que ce qui est positif.
Oui, mais...
On ne peut pas célébrer l'échec, on ne peut pas célébrer l'impasse.
Je ne pense pas qu'on puisse célébrer une euthanasie comme on célèbre
donc
un
mariage. Donc on regarde,
ce n'est pas, peut-être pas le mot de... Je ne suis pas effectivement
liturgie,
très à l'aise
si vous
avec
voulez.
Le
oui,
terme
mais
de célébration, mais c'est la
rite.
Préservation, le rite, et la préservation d'une possibilité de l'adieu. Voilà, on peut dire adieu. J'ai plusieurs fois cité l'exemple de l'écrivain belge Hugo Claus, à qui on avait diagnostiqué la maladie de l'Alzheimer, et qui, lucide sur l'hébétude vers laquelle il tendait, a pu interrompre ce processus destructeur en sabrant le champagne avec son épouse juste avant de recevoir l'injection létale, c'était la Belgique, dans une clinique prévue à cet effet. C'est la possibilité, justement, de mourir en disant adieu. Et on retrouve là le sens de la bonne mort. Donc, c'est pas du tout une sorte de révolte contre la finitude, mais à travers cette démédicalisation de la mort, c'est cela qui est en jeu, l'adieu. Et il y a un moment, et je l'ai vu avec ma mère, où bien sûr, on ne peut plus dire adieu parce que on est pris évidemment dans cette terrible triade apraxie, aphasie, agnosie. Et là, il est trop tard.
Vous citez Hugo Claus, hein, qui m'a beaucoup marqué, bien sûr. Moi, j'ai accompagné le professeur de Duve, prix Nobel de médecine, exactement dans les mêmes circonstances. Et je viens de lire le livre de Hans Küng, mais il dit exactement ce que vous venez de dire, Alain. La vie est une grâce, je cite, elle nous est offerte, mais le don de la grâce induit des responsabilités, dont celle de décider du moment et de la manière. Et Hans Küng dit « Je crois à l'au-delà, je crois en l'éternité, je crois que la vie est un don et qu'elle est une grâce et qu'elle est un don de Dieu, et Dieu me donne la responsabilité à un moment donné d'en décider. » En tout cas, je veux entendre ce qu'il dit là.
J'ai lu « La mort heureuse » de Hans Küng et vraiment, j'ai trouvé que c'était un sale migondier. Excusez-moi, je ne l'ai pas trouvé du tout cohérent. C'est du journalisme, ce n'est pas un bon texte. J'ai lu des textes théologiques.
C'est quelqu'un qui entre dans la maladie d'Alzheimer
qui est très malade, je le sais, mais qui est plein de contradictions.
Mais oui, c'est pour cela qu'il écrit ça.
Qui est plein de contradictions.
Alors peut-être que
Il écrit alors qu'il a déjà les premiers symptômes de la maladie.
Voilà, c'est exactement pour cela qu'il a sorti ce livre. Ce n'est quand même pas rien.
Et dans sa postface, il dit « Mais Dieu merci, j'ai échappé à ce que je croyais l'inéluctable et je suis heureux d'être encore là. » Nous verrons quel sera le destin.
Oui, mais ça mérite en tout cas écoute.
Ça mérite écoute, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut le faire. Moi, j'ai un exemple. J'ai entendu le ministre belge de la Culture, je crois, prononcer l'éloge funèbre de Hugo Claus. J'avoue que moi, sabrer le champagne pour dire adieu à quelqu'un qui va mourir, c'est pas exactement...
Et c'est lui qui sabrait le champagne.
Oui, justement. Eh bien, je ne sais pas si j'aurais pu trinquer avec lui.
Ah, moi non plus. Mes adieux, je ne ferais pas comme ça.
Donc, c'est pas du tout mon style non plus.
J'imagine.
Là n'est pas l'enjeu.
J'imagine, mais j'avais été choqué, scandalisé même par le ministre de la Culture qui, faisant l'éloge funèbre de Hugo Claus, disait « Ah, il ne voulait pas vivre la déchéance. Ah, il a voulu rester digne jusqu'au bout. Ah, quel homme. Ah, quelle mort. » Eh bien non. Moi, je dis non et non et non. Et pourquoi je dis non? Parce que dans mon contact régulier avec les personnes qui souffrent de grands handicaps, qui accompagnent des personnes Alzheimer, ces propos sont d'une violence que vous ne soupçonnez pas visiblement, Alain, quand vous vous exprimez de la sorte, quelquefois.
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est pour ça que je déteste cette expression « mourir dans la dignité », parce que c'est une manière de retirer toute dignité à ceux qui ne sont pas au fait de leur puissance, de leur intelligence. C'est retirer toute dignité à la faiblesse. Et il faut se garder de ce genre de tentation. Vous avez tout à fait raison, Jacques Ricot. Mais il s'agit de l'inquiétude que chacun peut éprouver. Sándor Márai a cette phrase très belle, le grand romancier hongrois. Il ne faut pas se hâter, mais il ne faut pas non plus rater la bonne mort. Et Kertész, qui le cite dans L'Ultime Auberge, dit lui, il y a une limite au-delà de laquelle il ne faut pas continuer. Ça, c'est l'expression de l'individu lui-même. Il ne parle pas des autres. Il ne professe aucun mépris à l'égard de ceux qui sont faibles. Mais il veut éviter pour lui-même un destin de décrépitude complète. Et ça, il faut le comprendre.
Vous continuez avec ce vocabulaire, je le comprends. Et je comprends que quelqu'un ne le veuille pas. Et c'est pourquoi, si vous avez lu attentivement mon très court texte sur le suicide, qui n'est pas, à mes yeux, un droit de l'homme, c'est une possibilité, une éventualité, une liberté, mais pas un droit créance, eh bien, rien n'interdit, même pas moralement, de juger, de condamner quelqu'un qui fait une tentative de suicide, voire qui se suicide réellement.
Mais bien entendu. Mais pourquoi ne pas l'aider dans certaines circonstances?
Pourquoi ne pas l'aider? Alors, vous pouvez l'aider, vous le savez peut-être pas. Si vous êtes dans une position qui n'est pas, crapuleuse vis-à-vis de lui, pour l'instant, le droit français, sauf des cas particuliers de non-assistance à personne en danger, ne condamne pas la complicité de suicide. Mais c'est pas pour ça que, éthiquement, c'est bien de... Quand quelqu'un, c'est arrivé, demande à ce que l'on l'aide à le suicider, la première réaction, et je pense que ce serait la vôtre, c'est précisément de ne pas lui donner les moyens de se suicider. C'est ça la solidarité, la sollicitude, la vraie sollicitude. Mais dire à quelqu'un qui veut se suicider, mais bien sûr que tu as raison de te suicider et je vais t'en donner les moyens, il y a quelque chose ici qui me paraît indigne parce que précisément, nous y revenons toujours, il y a là une insulte faite à tous ceux qui sont dans la même situation et qui entendent nécessairement ce discours. Alors, ce qui me surprend et qui m'étonne, Alain Finkielkraut, c'est que vous, qui êtes comme moi d'ailleurs, à certains égards, un pourfendeur de l'individualisme moderne contemporain, vous n'appliquez pas vos propres thèses à cette idée qui est que si l'individu décide souverainement de tout et de lui-même, au-delà de cette limite, je ne veux pas aller, qu'il n'y aille pas, bien sûr, mais qu'il n'entraîne pas le corps social. Et donc, il n'exige pas du corps social de prêter tout simplement main forte à ce qui est tout de même une transgression.
C'est quoi entraîner le corps social ?
Une transgression.
Autant, je le répète, je veux bien qu'on ait le plus grand respect pour ceux qui sont les plus fragiles. On leur a dit au moins 3 ou 4 fois. Je ne sais pas, moi, si je suis dans les circonstances, comment je réagirai.
Moi non plus.
Et vous non plus, d'ailleurs.
Moi non plus.
Peut-être
moi non
que
plus.
Nous mourrons les uns pour les autres.
Bien sûr.
Voir les uns à la place des autres, hein,
bien
disait
sûr.
Bernanos.
Mais ce...
Et... C'est quoi entraîner le corps social ? Le corps social...
C'est ce qui s'est passé en Belgique, déjà. C'est-à-dire qu'il y a une intériorisation...
Eh bien, vous vous trompez tout à fait sur l'interprétation, parce que depuis que nous avons la loi sur la dépénalisation partielle de l'euthanasie, jamais les soins palliatifs n'ont été aussi développés, jamais nous n'avons eu autant d'équipes médicales sur le terrain, jusque dans le plus petit village, où un médecin de campagne... Une kiné, une infirmière se mettaient ensemble pour accompagner à domicile. Et donc, l'effet, très curieusement, collatéral de la loi sur l'euthanasie a été une beaucoup plus grande attention aux conditions de la mort et au développement des soins palliatifs.
Tant mieux de ce côté-là. C'est un peu comme en France, la naissance des soins palliatifs, elle est liée pour une grande part à la demande insistante de lobby dans les années 80 pour la dépénalisation de l'euthanasie. Et c'est à ce moment-là que, justement, les soins palliatifs ont trouvé le ressort. Parce que, précisément, comme il y a là une grave transgression, je comprends, et je suis heureux de vous entendre, et je le sais aussi, par ailleurs, que les soins palliatifs sont très bien développés aussi en Belgique. Ma question n'est pas du tout celle-là, c'est qu'il y a désormais, dans la société belge, d'abord, un débat comme celui-là n'est plus tellement possible, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous êtes belge, vous êtes invité en France, moi, je ne suis jamais invité en Belgique, et pour cause. Mais pourquoi ?
Mais débat, il est permanent sur ces questions-là chez nous. Tendance confondue.
Non, justement.
Moi, j'ai un débat ou deux par semaine là-dessus.
Oui, mais avec des gens qui sont contre la légalisation de l'euthanasie en Belgique.
Mais absolument.
Il y a encore quelques grottes de résistance, peut-être ça et là. Mais la population, les médias belges sont maintenant sur votre position qui est d'intérioriser cette loi qui est quand même transgressive. On ne peut plus. C'est pas rien tout de même, je le répète, de tuer son prochain.
Mais pourquoi parler d'individualisme exacerbé alors même qu'il s'agit de rapatrier la mort dans la vie collective? C'est ça le sens du rite,
d'accord.
Si vous voulez. C'est ça la démédicalisation de la mort. La mort devient un événement, le mourant y joue, si j'ose dire, son propre rôle, et je ne vois pas ce qu'il y a de transgressif même, ou de scandaleux, dans le désir qu'on exprime de pouvoir dire adieu. Ça devrait être la moindre des choses, et si la médecine peut y aider en s'effaçant quelque peu, en se mettant au service d'autre chose que d'elle-même, notamment quand elle est impuissante, eh bien, mon Dieu, qu'elle le fasse.
J'aime beaucoup, beaucoup votre expression de rapatrier la mort.
C'est
absolument fondamental. Et là, nous dépassons les questions d'euthanasie ou de sédation.
Et là, nous sommes d'accord.
Je pense que dans notre société, la mort a été beaucoup trop évacuée. J'essaye aussi de raconter cela dans mon livre. Comment rendre la mort beaucoup plus présente, non pas de manière morbide, mais pour que cela nous aide à vivre et à beaucoup mieux vivre. Et le but de l'accompagnement en fin de vie, et notamment des soins palliatifs, mais aussi de l'euthanasie, c'est que l'on reste vivant jusqu'à la dernière seconde, que l'on garde souffle jusqu'à la dernière seconde, et garder souffle jusqu'à la dernière minute, c'est bien cela, la vie spirituelle.
Oui, alors, sauf que tout de même, on reste vivant jusqu'au dernier souffle, un peu comme quelqu'un qui va se pendre et qui va rester vivant jusqu'au dernier souffle. Alors, vous récusez-vous la sédation parce que vous dites qu'on est plus vivant jusqu'au dernier souffle. Alors donc,
La sédation élimine un des grands éléments des soins palliatifs, qui sont être présent et maîtriser la douleur.
Oui,
vous supprimez la présence.
Alors, soyons nuancés, comme vous l'êtes et comme je vais l'être moi aussi. La sédation n'est pas évidemment une solution satisfaisante, puisque, comme vous le dites très justement, ça coupe la relation. Mais l'immense majorité, c'est ce que vous aviez très bien dit tout à l'heure, des sédations sont des sédations réversibles. Vous le savez bien, dans la pratique médicale, il est très rare.
La majorité, c'est vrai.
Il est très rare lorsque justement se présente une fin de vie qui peut être douloureuse, une dyspnée par exemple ou une hémorragie catastrophique. cataclysmique. Bien entendu que là, il va falloir recourir à une sédation jusqu'au décès.
5 à 10% des situations.
Beaucoup moins. Alors là, nous n'avons pas les mêmes chiffres, visiblement, beaucoup moins. Ça dépend de la formation et de la qualité des soins palliatifs. Mais cette sédation, bien évidemment, elle va laisser mourir la personne dans son sommeil de sa maladie, mais elle ne va pas, je maintiens cette distinction forte, elle ne va pas faire mourir. Et donc, l'adieu, évidemment, c'est facile. Une fois que vous avez décidé de faire mourir la personne, on peut lui dire adieu avant, alors qu'autrement, l'adieu, il va être éventuellement, en effet, plus dilué, ça c'est possible. Mais c'est le tragique aussi de l'existence humaine. On ne peut pas tout décider. Et la mort, qu'est-ce que c'est sinon la démaîtrise et non
c'est
pas la maîtrise.
Démaîtrise. En même temps, Paul Ricoeur émettait un souhait alors
Paul Ricoeur,
qu'il était
très
âgé.
Il m'a énormément inspiré et je suis complètement sur sa ligne.
Alors, Paul Ricoeur émettait un souhait, être vivant jusqu'à la mort.
Voilà.
Et c'est le souhait que j'aimais pour moi-même et pour mes proches. Mais il arrive que l'on vive alors qu'on est à peine, qu'on n'est plus vraiment vivant. Et dans ces cas-là, on vit simplement en s'accrochant à la vie, pour reprendre les mots de cette doctoresse qui ont tant et justement choqué Emmanuel Bernheim. Je crois qu'il est assez légitime, Jacques Ricoeur, d'aider les hommes à exaucer ce vœu. Et il me semble que ce vœu-là, vous y voyez, vous, une sorte de désir de maîtrise, et en guise de réapprentissage de la finitude, vous pensez que on doit se préparer à toutes les infirmités possibles.
Non, interdire n'est pas empêcher. Ça, je l'ai toujours dit, proclamé, très fortement proclamé. C'est pas du tout la même chose de dire qu'il y a un repère ici, qu'il y a une boussole très forte dans nos sociétés et qui est en train, et ça va pas se juger en quelques mois, en quelques années, ça va se juger sur quelques décennies, qui est en train de se déliter. C'est ça ma question, mon souci. Vous voyez, moi j'ai l'avantage de ne pas être prêtre, donc de ne pas avoir les difficultés que Gabriel Ringlet peut rencontrer.
Mais
donc,
je n'ai pas tellement de difficultés, mais en fait.
Je ne suis qu'un modeste philosophe et j'aimerais qu'un jour, d'ailleurs, Joséphine Bataille, qui a interviewé Corinne Vonos dans ce livre, Médecin catholique, pourquoi je parle de l'euthanasie, j'aimerais qu'elle fasse un livre avec mon ami Bernard de Valois, agnostique, de gauche, et qui dit médecin athée et de gauche, pourquoi je ne pratique pas l'euthanasie. Ce serait
d'ailleurs,
bien qu'il y ait ça
aussi. C'est un magnifique débat à front renversé que nous avons, parce que c'est le prêtre qui, à l'intérieur de certaines limites, bien sûr, défend l'euthanasie, et c'est le philosophe qui la condamne.
C'est magnifique, hein, non ?
Gabriel Ringlet.
Écoutez, moi je suis très très heureux comme prêtre d'avoir été embarqué sur ce terrain que je n'imaginais absolument pas, et je vais m'aller jusqu'au bout de ce qu'est ma conviction comme prêtre, c'est que lorsque je suis là, dans cet accompagnement-là, je pense que vraiment l'évangile est pleinement vécu jusqu'au bout. Que je sache, Jésus, j'ai en tout cas fouillé les évangiles, n'a pas écrit quelque part, il y a des types de souffrances insupportables que vous n'avez pas à accompagner. Mais je pense qu'il n'y a, sur ce plan-là, aucune hésitation à avoir.
Mais Gabriel Ringlet, concrètement, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement spirituel de l'euthanasie dont vous parlez en effet dans votre dernier livre, Vous me coucherez nu sur la terre nue.
Très belle expression de François d'Assise.
Très très concrètement, et cela prend un temps, hein, j'accompagne la famille, j'accompagne le patient, j'accompagne l'équipe soignante, et ensemble, nous décidons de la manière dont nous allons construire ce dernier moment qui peut varier d'une situation à l'autre. Je vais encore le vivre ce prochain week-end, c'est souvent quelque chose de très 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 bouleversant et où la parole qui est entendue à ce moment-là est une parole très très forte, mais j'y insiste beaucoup, c'est une vraie surprise pour moi, mais une agréable surprise. Cette démarche, elle n'est pas du tout uniquement une démarche chrétienne, une démarche catholique. J'ai la surprise de voir que dans des hôpitaux laïcs, je me suis trouvé devant des médecins qui me disaient « mais nous aussi, nous sommes confrontés à une question spirituelle. Nous aussi, nous ne voulons pas que le patient parte simplement à travers un geste technologique. Comment peut-il être contextualisé ? Est-ce que cela peut être vécu en relation ? » Et ça, je trouve.
Mais alors, la relation, c'est quoi ? C'est la prière ? C'est un discours ?
C'est très peu de discours, hein. Il peut y avoir un moment de prière pour ceux qui le demandent. c'est assez fréquemment le cas. Ça peut être la lecture d'un poème, c'est ce que j'ai fait tout récemment, mais ça peut être aussi poser un geste parfumé, ça peut être une forme de caresse, d'onction parfumée, ce peut être très fréquemment allumer une bougie, tous les éléments qui permettent d'être rituel.
Et dans ces moments-là, le malade est seul avec vous, il est entouré des siens?
Il est entouré des siens, je le vois seul avant, mais au moment où nous vivons ce que je viens de décrire, nous sommes tous là. L'équipe soignante, les médecins qui vont, il y a toujours deux médecins, qui vont procéder à l'euthanasie, les proches, s'ils le souhaitent, moi-même. Donc, c'est quelque chose qui se vit dans une très très grande solidarité. Nous pouvons être une quinzaine et j'essaye aussi que l'espace de la chambre soit aménagé pour que ce qui va se vivre là nous fasse tous grandir alors que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extrêmement tragique et d'extrêmement difficile.
Je ne doute pas un instant que votre accompagnement spirituel d'avant l'euthanasie soit une manière ritualisée d'atténuer la violence qui va suivre. Je dis atténuer, mais j'ai envie de dire masquer la violence, parce qu'il y a quand même un problème. Vous avez été embarqué, comme Corinne Van Oss a été embarquée par une patiente, et j'ai lu son livre attentivement, et je trouve qu'elle est restée prisonnière précisément de cette première patiente. Il y avait certainement, j'en ai parlé avec des meilleurs spécialistes que moi de soins palliatifs, il y avait certainement d'autres façons d'accompagner cette Albertine dont elle parle.
Vous n'étiez pas dans cette clinique
non,
à ce moment-là,
bien sûr,
franchement,
bien sûr, mais
franchement, dire au médecin qu'il y avait une autre manière d'accompagner
parce que, oui, parce que
à distance comme ça.
Oui, mais parce qu'elle a fait de l'euthanasie pour une SLA, une maladie de Charcot, alors qu'elle le dit plus loin, il y a d'autres manières d'accompagner une personne qui est atteinte de maladie de Charcot.
Si vous saviez à quel point c'est une femme nuancée,
mais je la connais,
délicate,
je l'ai rencontrée.
Qui ne vient à l'euthanasie qu'en toute extrême limite.
Oui, mais quand elle s'exprime publiquement, et je vous assure que j'ai beaucoup de témoignages de médecins français, elle est quand même assez dogmatique. Moi, je trouve qu'elle s'est laissée enfermer dans une relation compassionnelle, avec sa seule conscience, avec le Saint-Esprit. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais je crains qu'il y ait un risque un peu orgueilleux au fond, affirmer la toute-puissance médicale dans ce geste ultime, même accompagné de tendresse, de gentillesse et de toutes les qualités que je veux bien reconnaître à Corinne Van Oss.
Bien, nous en restons sur ce désaccord autour de la médecine, du rite et de l'euthanasie. Je voudrais renvoyer à la lecture de vos livres, Jacques Ricot, « Le suicide est-il un droit de l'homme ?» aux éditions M édité, ainsi que « Éthique du soin ultime » aux presses de Le HESP, Gabriel Ringlet, vous me coucherez nu sur la terre nue, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie. Ce livre est publié aux éditions Albin Michel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.